ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, la lune dans vos oreilles, toute pleine, toute ronde, toute sonore. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne. Et notre adresse, onde femme sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme, et bien dans quelques instants, les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivies par les coups de cœur de Marjolaine. Et cette semaine, Marjolaine a un cœur très très gros, vous verrez. À tout de suite. Bonsoir, Radio Pleine Lune 3.8 MHz, notre fameuse Radio Zone, nos nouvelles. Pour commencer, des nouvelles justement de nos amis séquestrés par le ministère de la Confédération et plus spécialement de notre ami détenu à la prison de Bois-Mermet à Lausanne. Cela fait bientôt 2 semaines que le ministère de la Confédération, Madame Carla Del Ponte, fait monter la tension en faisant miroiter une prochaine libération. La réponse devait venir la semaine prochaine, puis lundi, puis mercredi, et finalement, ce sera la semaine prochaine. En attendant, soyez très très vigilants, il se passera peut-être des choses. Écoutez la radio et lisez les journaux, soyez attentifs. Les amis, la solidarité continue de s'organiser. Et puis quelques messages pour notre ami détenu à la prison de Bois-Mermet. Cette semaine, il ne recevra malheureusement pas de visite puisque le règlement de la prison pose certaines limites. Ses amis lui proposent de faire beaucoup, beaucoup de zen pour être très tranquille et surtout qu'il ne s'énerve pas. Rien ne sert de s'énerver contre les crottes de mouches. En tout cas, un grand salut, à très, très bientôt. Ce week-end en Suisse et à Genève, des votations très importantes puisqu'on votera à la fois sur l'assurance maladie, sur les mesures de contrainte, sur la fermeture de la clinique de Montana, sur la privatisation du service des automobiles et sur l'ouverture des magasins la nuit. Nous avons demandé à quelques personnes de nous faire part de leur avis sur les différents points qui seront soumis à votation.
Membre du Forum Santé, quelles sont les raisons pour refuser la fermeture de la clinique de Montana?
Je crois qu'il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que cette clinique, elle fait partie du réseau hospitalier Genevois. Elle offre des prestations pour les patients, 95%. Les personnes qui montent à la clinique de Montana sont des patients en réadaptation et 5% des convalescents. Je crois que ça fait partie du... C'est une des prestations qui sont complémentaires de l'ensemble du réseau sanitaire Genevois. On a voulu la marginaliser en disant que c'était une clinique d'altitude pour des gens qui font des séjours en été de convalescence. Je crois que ça, c'est une, ce sont des mensonges, tout simplement. Les statistiques et les témoignages du personnel, des patients, nous le prouvent. Ça, c'est une des raisons fondamentales. Puis la deuxième, c'est qu'on nous dit que ça va faire 5 millions d'économies et que ces patients, donc on reconnaît que c'est des gens qui ont des besoins de traitement, de réadaptation, le suite de traitement, ces patients qui sont 900 par année pourraient être facilement repris par les hôpitaux genevois, alors qu'on voit très bien que d'une part, ces hôpitaux, leur coût est bien supérieur à ceux de Montana, puisque Montana est une des cliniques les plus bons marchés du réseau sanitaire genevois, et que l'ensemble de ces cliniques, type Loye, la maison de Jolimont, l'hôpital cantonal, puisqu'on dit même qu'on peut utiliser l'hôpital cantonal, sont quasi pleins toute l'année, il y a des 92%, 95%, et donc en plus qui coûtent plus cher que les séjours à Montana. Donc, voilà, disons, les deux raisons principales pour lesquelles il faut maintenir cette clinique. La troisième, disons, c'est que toute la discussion sur la restructuration des hôpitaux genevois va débuter ce prochain mois. Elle a commencé à débuter à partir du rapport Gillian, qui, lui, ne met pas en cause de manière radicale Montana, dit qu'il pourrait y avoir une restructuration, une diminution du nombre de lits, une mission plus précise, par exemple, en direction des CDA1. Des personnes qui ont des troubles de la dépendance ou des gens qui ont des troubles psychiques, ce qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on peut penser par rapport à cette clinique. Mais cette restructuration a démarré, la décision de Montana a été prise avant une discussion. Donc le principe de base qui est de négocier tout ce qui concerne la politique de santé a été complètement dénigré. C'était une rupture de principe, ce que j'appelle une rupture du principe des négociations, qui est extrêmement grave par rapport au système de santé. On ne traite pas les besoins de santé, on ne traite pas les droits des patients à l'accès aux soins comme une vulgaire poudre à lessive. On doit choisir entre A et B.
Donc derrière cette votation, il y a un enjeu plus grand que simplement Montana. Il y a peut-être tout le système de santé à Genève.
Ah, c'est évident. C'est évident que l'enjeu politique, c'est un message du Conseil d'État, de nos gouvernants, qui disent en gros, voilà, on n'a pas besoin de l'opinion ni des partenaires, ni des patients, ni des travailleurs, ni de l'opinion publique pour prendre nos décisions. Aujourd'hui, on décide de couper dans les prestations. Si ça passe, c'est la voie royale pour nous pour faire de nouvelles mesures de ce type-là. Si ça passe pas, ils devront revoir leur copie. Mais à mon avis, le message en direction de la population est celle-ci. Soi-disant, on a fait toutes les économies possibles dans le système de santé et dans les autres administrations également. Maintenant, on décide sans prendre l'avis de la population. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est un principe de base, comme je le disais, démocratique. Et on sait qu'en politique de santé, c'est aberrant. Même le prof Gillian, dans son rapport, dit que toutes ces mesures de restructuration, il donne un chiffre, diminution du nombre de lits, de 400 à 500 lits de lits aigus et moyens de réadaptation, doit se faire sur une durée d'environ 20 à 30 ans et en tout cas négocier avec les partenaires, personnels et patients, parce qu'autrement ce sera une catastrophe, ce sera une faillite.
Il y a aussi, on sent derrière cette volonté de fermer Montana, de déplacer des cas de convalescence ou des cas style fin de vie ou toxicomanie, de les renvoyer à la maison, mais sans nécessairement qu'une structure d'appui existe pour les soutenir à domicile.
Oui, je pense que c'est tout à fait une erreur d'évaluation. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire le choix en soi entre les lits hospitaliers et les soins à domicile, même si on trouve juste, dans le cadre du Forum Santé, qui est un déplacement progressif, c'est-à-dire avec diminution du nombre de journées hospitalières ou, je veux dire, diminution du nombre de lits en direction du soin ambulatoire. Il y a toute une phase, il y a toutes des nécessités de moments de réadaptation où la personne ne peut pas trouver l'entourage à domicile ou en ambulatoire parce que son affection est encore trop importante, où elle a besoin de ses soins, de ce qu'on appelle les soins de réadaptation, qui peuvent être très bien ciblés, très bien conduits. Par exemple, à Montana, la durée moyenne de séjour est de 24 jours, si je ne me trompe pas. Elle a diminué d'ailleurs depuis 10 ans. Les thérapies, les prestations se sont affinées. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir cette vue manichéenne comme les tenants de la fermeture de Montana le montraient en disant 160 francs par jour en soins à domicile, en aide à domicile, c'est bon marché. L'État doit faire des économies, fermer Montana.
Donc les consignes de vote?
Ah, elles sont très très claires, elles sont très importantes. Il faut maintenir Montana pour les deux raisons de base. La raison, c'est qu'il faut que ce dossier retourne sur la table, la discussion des négociations avec tous les partenaires, les travailleurs, les soignants, les patients et les autres organismes syndicats et politiques, puisque même le Grand Conseil n'a pas été saisi de cette question-là, alors que c'est une de ses prérogatives. Et puis, maintien de la clinique, parce que c'est une clinique qui est indispensable dans le réseau de soins genevois.
Merci beaucoup. Autre sujet brûlant qui sera, donc, sur lequel on devra voter, c'est les mesures de contrainte qui peuvent donc conduire à mettre en prison pour plus d'une année, des étrangers en situation irrégulière ou des réfugiés auxquels on va refuser un droit d'asile. Alors, sur cette question, les jeunes se sont énormément mobilisés. Il y a eu une manifestation appelée par la coordination des jeunes. J'ai avec moi Luca, qui fait partie de cette coordination. Pourquoi est-ce que les jeunes, vous par exemple, qui ne pouvez même pas voter, vous êtes tellement mobilisés contre cette loi?
Parce que contrairement à énormément des sujets qu'on propose à voter en général au peuple suisse, c'est un sujet qui nous a fait bondir depuis le tout début. C'est-à-dire que c'est une loi qui est tellement extrémiste qu'on ne pouvait tout simplement pas partir du principe que c'est juste un débat électoral, savoir qui pourrait intéresser finalement que les gens qui peuvent voter. C'est-à-dire que ça nous a semblé tellement grave qu'en fait, avant même que le référendum soit lancé, on a marqué notre opposition par une série de tracts qu'on a distribués dans la rue, et en espérant qu'il y aurait un référendum. Le référendum a été lancé, on l'a soutenu, donc c'était logique qu'après, donc on l'a fait signer, on a été dans les bureaux de vote, tout ça. Donc c'était logique qu'après, on le soutienne pendant la campagne de votation.
On pourrait même dire que le référendum a été lancé sous l'impulsion des jeunes.
Effectivement, beaucoup d'associations de soutien aux réfugiés ou comme ça, à l'origine, ils n'étaient pas très chauds pour lancer un référendum par peur d'une défaite électorale qui, malgré tout, reste tout à fait possible pour ce sujet. Mais nous, ça nous a semblé très important de surtout pas baisser la tête, finalement, se boucher les oreilles, parce que sinon, ça voulait dire que ça ouvrait la porte à des séries de mesures qu'on pourrait qualifier de policières. On peut se dire que s'il n'y a pas de référendum sur ça, sur quoi est-ce qu'il y aurait des référendums?
Est-ce que ça veut dire que pour toi, si ces lois passent, tu n'aurais plus envie d'être suisse? Tu te sentirais en tout cas mal à l'aise dans ce pays?
Bon, après, effectivement, déjà, de toute façon, je ne me sens pas spécialement suisse, plus que... Enfin, même si je suis suisse, c'est pas un truc qui me tracasse énormément. Effectivement, c'est la preuve. En tout cas, si le peuple suisse accepte ça, ça remet beaucoup de choses en question, dans le sens que c'est... Ça veut peut-être dire que les Suisses n'ont vraiment rien compris à cette loi, ou ça veut peut-être dire, ou que tout simplement ceux qui ont lancé cette loi finalement ont dit des arguments qui sont carrément mensongers, et on sait plus très bien ce qu'ils disent. Donc je pense que même s'il y a une défaite, ça veut pas dire forcément que tous les Suisses sont racistes, mais ça veut peut-être dire que finalement le ministère de colère et tout ça ont très bien joué, dans le sens qu'ils ont réussi à faire passer une loi extrêmement violente pour des mesures qui sont peut-être violentes, mais qu'on ne sera pas obligé d'appliquer de manière aussi violente. Alors si on part du principe que si on fait des lois violentes, après on ne les applique pas, pourquoi faire des lois violentes? C'est plutôt ça. Maintenant, De toute façon, je me sens pas plus suisse si elle avait été refusée, donc pour moi, ça change rien.
Et toi qui n'iras pas voter, quelles consignes de vote tu veux donner à ceux qui iront voter dimanche?
Évidemment, non. Et évidemment, si ça passe, ne pas accepter ces lois, c'est pas parce que la majorité vote ces lois qu'on peut accepter ce genre de choses. Un sujet comme ça, c'est trop grave pour dire la majorité, on va accepter, la majorité a accepté, nous allons accepter. Non, il faut pas accepter et il faudra mettre en place des réseaux de soutien et tout ça. Et j'espère bien que, en tout cas, sur Genève et dans une bonne partie des cantons où il y a beaucoup d'étrangers, cette loi va être refusée parce qu'on sait très bien que ce sont les cantons où il y a le moins d'étrangers, que les gens ont le plus peur des étrangers.
Merci beaucoup.
En France, l'opposition à l'avortement s'organise au nom de la femme blanche. Voici un épisode qui s'est passé le 24 octobre de cette année à 7 heures du matin. 12 personnes forcent les portes d'un service d'avortement de l'hôpital Michelon près de Grenoble. 10 d'entre elles s'enchaînent aux tables chirurgicales avec des antivols de vélo, tandis que les deux autres s'enfuient avec les clés. Parmi eux, dont Gérard Calvet, abbé du monastère Sainte-Madeleine du Barou, éditeur d'un missel traditionnaliste comportant la prière pascale pour la conversion, je cite, des juifs perfides. Cette 96e opération commando, traduction littérale de l'expression américaine opération rescue, reproduit fidèlement le scénario rodé par les pro-life américains, diffusé par des vidéocassettes à usage pédagogique. Le mouvement français contre le droit à l'avortement s'est reconstitué à la fin des années 80, profitant des réseaux catholiques conservateurs, des généreux subsides du lobby pro-life américain et de l'implantation du Front national dans des provinces françaises et surtout du vide juridique comblé très tardivement par la loi de décembre 92 pénalisant l'entrave au déroulement d'une interruption volontaire de grossesse. Mais ce sursaut est surtout le fait de deux personnalités assez charismatiques, le docteur Xavier Dore et Claire Fontana. Ils ont su frapper l'opinion par des actions et des slogans spectaculaires. Le docteur Dore a créé SOS Tout Petit en 1986 avec des amis proches comme lui du Front National. Ils interviennent tous les dimanches dans les cliniques et de la région parisienne en entravant le travail du personnel médical, en bloquant les couloirs et en chantant des cantiques. Claire Fontana fonde en octobre 88 la Trêve de Dieu, référence historique à l'action pacificatrice de l'Église au IXe siècle, à l'occasion de la visite du pape à Strasbourg, afin qu'aucun avortement n'ait lieu lors de son séjour. Pour s'en assurer, elle organise elle-même trois actions commando à Metz, à Nancy et à Strasbourg. Claire Fontana bénéficie de nombreuses amitiés dans les milieux traditionnalistes et ecclésiastiques, par exemple les bénédictins de Solesnes, de Fontgombault, de Randol, du Barou, ainsi que les carmélites d'Évreux et les clarisses de Paris, mais aussi l'évêque de Metz, Monseigneur Raffin, qui l'assure publiquement de leur soutien. Lors de son inculpation à Bordeaux, en 93, le cardinal de Courtrai témoignait en sa faveur. Il affirmait non seulement son hostilité à l'avortement et aux lois laïques française, mais justifiait les actions commando en les amalgamant à des actions humanitaires et engageait tous les chrétiens à en organiser de toute urgence. Des militants de la Trêve de Dieu sont invités par le pape au sommet des experts sur la vie en avril 91. Thierry Lefebvre, protestant ayant longtemps vécu aux États-Unis, rallie la mouvance de Claire Fontana et fournit aux militants documents iconographiques, vidéos, etc. Le rêve de tous ces militants est de constituer un puissant lobby économique et politique susceptible de faire pression sur les gouvernements pour abolir les droits à la contraception et à l'avortement. Il a ainsi proposé une mutuelle, l'Association pour la protection de la vie et de la santé, qui, je cite, « garantit le non-remboursement de l'avortement ». Les publications françaises incitent à investir dans des banques pour la vie américaines qui offrent un portefeuille d'actions. Les associations se sont ainsi aussi appliquées à contrôler les faits et gestes du monde politique grâce au dynamisme de l'Association pour l'objection de conscience à toute participation à l'avortement qui a constitué une base de données informatisée qui répertorie les votes et les prises de position des députés sur la contraception, l'avortement, la bioéthique. Cette association tient à la disposition de ses adhérents des dossiers expliquant comment ils peuvent déduire le remboursement des avortements de leur impôt. Cette association fait également pression sur les candidats aux élections en diffusant un listing des politiciens politiquement corrects, parmi lesquels on trouve Jacques Chirac, Edmond Alfandry, ministre de l'économie, Alain Madelin, ministre des entreprises et du développement économique, Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale, ainsi que 30 députés de la majorité RPR-UDF. Quelques intellectuels ont également exprimé leur soutien aux actions des groupes opposés à l'avortement, comme Jeanne Bourin, Pierre Chenu, François Georges, Dreyfus, Jacques Dupaquier, Régine Pernoud. On trouve deux thèses récurrentes dans les discours des opposants à l'avortement. Une position chrétienne, traditionnaliste, assez connue, ainsi qu'une forme de relativisme historique appliquée à l'avortement. En effet, pour eux, selon ce thème du discours, on cherche à travers l'avortement, à banaliser le génocide nazi par l'identification des fœtus aux victimes du nazisme. L'avortement et la contraception sont considérés comme une guerre totale visant à l'extermination systématique des fœtus. Une interruption volontaire de grossesse devient un crime contre l'humanité, un gazage, un génocide, un holocauste. La pilule abortive RU486 s'appelle le Zyklon B moderne. Hitler, lui, a tué moins d'enfants pendant la guerre que le RU486 ne l'a tué en temps de paix, je cite bien entendu. Quant aux recherches sur les nouvelles technologies de reproduction, ce sont des déportations contre nature, où le fœtus sont scientifiquement et arbitrairement envoyés à la mort. Les féministes, les militantes du planning familial, mais aussi les députés qui ont approuvé la loi, sont des nazis ou des SS. Le docteur Tremblay, actuel président de Laissez-les-Vivre et sympathisant du Front National, estime qu'il y aurait eu 300 millions de victimes en 10 ans. A noter que le pape reprend absolument ce discours, puisque chaque fois qu'il parle d'avortement, il l'identifie à un génocide. Ces journaux d'extrême droite, comme Militants, Présents, Tribunes nationalistes, se font régulièrement l'écho des activités et réflexions du mouvement. Ils informent des actions et ils les situent dans une perspective globale. Ils expliquent notamment que l'avortement ne touche que les seules femmes blanches par la faute d'un lobby juif qui ferait pression sur elles pour les empêcher de se reproduire. Ce lobby serait constitué par les victimes juives du nazisme qui se vengent sur la race blanche. L'avortement serait donc, comme l'énonce Christelle Duguay, présidente du combat nationaliste féminin, un, je cite, « acte de guerre perpétré par les juifs contre les blancs ». La principale cause de la baisse de la natalité en France, dit-elle, c'est cette loi criminelle instaurée à l'initiative de Simone Veil, officiellement gazée à Auschwitz. Il est bon de le rappeler, de même que le cauchemar syndical Enoch Krasucki, et qui n'est faite que pour les blanches, qui sont soumises à une propagande intensive à ce niveau, tant pendant leur scolarité que pendant leur grossesse. Cette loi, comme le métissage, est un crime contre notre race. Fin de citation. Les enfants vivants sont aussi utilisés dans les manifestations contre l'avortement. On les appelle les rescapés ou les survivants du camp de la mort. Les adultes qui acceptent de fonder une famille s'appellent les justes. Lors de la dernière journée nationale de la déportation, en mars 1994, les opposants à l'avortement se sont rassemblés place du Châtelet pour protester contre le déportement d'enfants hors du ventre de leur mère. Quelques-uns poursuivent l'amalgame en se rendant à Auschwitz pour leur rendre un dernier hommage, comme l'atteste dans le quotidien Présent Michel Wurmeling, président de l'Union des Nations de l'Europe chrétienne. « Nous avons décidé, dit-il, d'organiser ce pèlerinage à Auschwitz afin de faire prendre conscience aux Européens qu'un génocide encore plus monstrueux quant au nombre de ses victimes, est actuellement en cours. Le RU486 a succédé au gaz Zyklon B, utilisé à Auschwitz comme pesticide humain. Partout en Europe, la machine de l'extermination est de nouveau imperturbablement en route. A noter que ces groupes anti-avortement semblent faire leur percée à Genève, puisque dernièrement, on a pu voir des grandes publicités pour des conférences qu'ils organisaient à Genève. Toujours en France, France, des jeunes filles portant des foulards sont exclues des lycées. 6 nouveaux cas se sont présentés à Mantes, dans la banlieue de Paris. C'est le conseil de discipline du lycée de Saint-Exupéry, à Mantes-la-Jolie, banlieue parisienne, qui a exclu 6 des 7 jeunes filles qui refusaient d'enlever leur foulard islamique depuis la rentrée de la Toussaint. Sonia, le porte-parole des jeunes filles portant le foulard islamique, compte au rang des exclus. Les jeunes filles n'ont fait aucun commentaire à leur sortie du conseil de discipline. D'autres cas, s'il s'agit du collège Paul de Cézanne, aussi à Mantes-la-Jolie, qui a exclu 7 élèves, ainsi que le collège André Chénier, où 2 des 3 collégiennes portant le foulard ont décidé de ne plus fréquenter l'établissement. En outre, 17 élèves exclus du lycée Féderbe à Lille ont également été convoqués devant le rectorat de la ville. À Genève, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du foulard, de jeunes filles portant le foulard? Voici une mise au point de Martine Brouch-Migraf, conseillère d'État, responsable du département de l'instruction publique. Elle dit... Je tiens à préciser ce qui suit. La politique du DIP concernant l'accueil des jeunes filles portant un foulard islamique n'a pas varié depuis plusieurs années. L'école genevoise les accueille, ne pratique pas l'exclusion à leur égard. Elle est le lieu où les élèves, au-delà de l'acquisition des connaissances, forgent peu à peu leur autonomie. L'enseignement public n'a-t-il pas notamment pour objectif de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement. Comment le DIP pourrait-il refuser cette possibilité à des jeunes filles, sachant par ailleurs qu'en refusant de les accueillir au sein de l'école publique, au-delà de la scolarité obligatoire, il les prive de toute possibilité de formation solide. Cela étant dit, cette ouverture s'accompagne d'une exigence que j'ai définie très clairement. Aux directions générales, à savoir que les élèves concernés doivent suivre l'ensemble des cours et qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dispenses pour les cours d'éducation physique, pour autant que ces cours soient dispensés par une enseignante dans un cours composé exclusivement de jeunes filles, ce qui est d'ailleurs la règle dans l'enseignement post-obligatoire, signé Martine Brouch-Migraf. Quelques brèves nouvelles. En Allemagne, la CDU introduit des quotas féminins. Le congrès de l'Union chrétienne démocrate a donné lieu à un débat enflammé puisque les délégués ont adopté de justesse, malgré un appel vibrant de M. Kohl, des faveurs à l'intérieur des femmes... le principe des quotas en faveur des femmes à l'intérieur du parti. Tous les mandats électifs et tous les postes de responsabilité devront donc être occupés dès 95 à hauteur d'au moins un tiers par les femmes. Autre petite nouvelle, aux États-Unis, un cas de harcèlement sexuel qui coûte très cher, puisque la maison luxueuse de bijouterie Tiffany devra verser $365,000 à l'une de ses anciennes employées, Paula Smith, qui avait été licenciée parce qu'elle se plaignait d'être victime de remarques sexistes et racistes. La somme a été calculée en prenant en compte les salaires non versés depuis le licenciement en 83. Voilà, c'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, les nombreux coups de cœur de Marjolaine.
Vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, la suite de notre programme.